Radio Okapi.
Maisha bora.
Bonjour à tous et merci d'écouter Radio Capi, la fréquence de la paix. Dans votre magazine de santé et bien-être Maïcha Bora d'aujourd'hui, nous parlons de la méningite, facteur de risque, prise en charge médicale et moyens de prévention. À la présentation, Marcel Ngombombala, à la réalisation, Tati Mapoukou, à la supervision, Tina Salama. La prise de son est assurée par J.C. Siala. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Maïcha Bora.
Autonomisation, violence basée sur le genre, la vie en famille, les valeurs familiales et toutes les questions liées au développement de l'homme et de la femme, c'est dans Parité et Famille. Votre émission vous apprend également comment vivre une vie harmonieuse en famille et vous propose des astuces pour gérer les problèmes des couples, relever les défis de l'éducation des enfants et le bien-être familial. Parité et Famille, votre émission qui traite des rapports hommes et femmes dans la société. Tous les mercredis à partir de 9h15 et 20h30, aussi le vendredi à 13h30.
On parle de la méningite lorsqu'il y a une inflammation des méninges. Les méninges sont ces membranes qui enveloppent les cerveaux et la moelle épinière. Il y a certaines formes de méningite qui peuvent entraîner de graves séquelles et même conduire à la mort lorsque la prise en charge ne se fait pas à temps. Cette maladie est causée par un microbe qui peut être soit un virus ou une bactérie. D'après le docteur Bepuka Iziza, chercheur en maladies infectieuses, elle est plus souvent causée par un virus. Dans ce cas, on parle de méningite virale qui est généralement bénigne, mais en revanche, lorsqu'elle est causée par une bactérie, il s'agit là de la méningite bactérienne qui est beaucoup plus grave, pouvant entraîner le décès et d'importantes séquelles.
En fait, la méningite, c'est une inflammation des méninges. Les méninges sont les enveloppes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Donc, en gros, la méningite, c'est l'inflammation de l'enveloppe du cerveau et de la moelle épinière.
Quels sont les facteurs qui sont à la base de cette inflammation, docteur?
Bon, il y a plusieurs facteurs. Donc, du point de vue d'abord étiologique, l'étiologie la plus fréquente, c'est l'étiologie infectieuse.
Donc, les infections.
Les infections. Les infections en général qui causent la méningite. Alors, les infections peuvent être d'ordre bactérien. C'est ce que nous appelons la méningite bactérienne, et vous avez les infections virales, les infections mycosiques ainsi que les infections parasitaires. Ce sont là les causes les plus fréquentes des méningites qui peuvent entraîner la méningite.
Ce sont donc, comme vous l'avez suivi, les infections d'origine bactérienne, mycosique ou virale qui peuvent être à l'origine de la méningite. Le docteur Salah Aïs, médecin généraliste à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe, ici à Kinshasa, revient sur les causes de cette maladie.
Oui, par définition, la méningite, c'est l'inflammation des méninges. Alors, les méninges sont les enveloppes qui recouvrent les cerveaux. Donc, quand ça s'inflamme, donc l'inflammation de ces enveloppes de méninges donne la méningite.
Et est-ce que je peux avoir une idée sur les facteurs qui sont à la base de cette inflammation des méninges?
Oui, ce sont les infections qui peuvent être bactériennes. La plupart des cas ici chez nous, c'est bactérienne. Il y a des parasites aussi qui sont concernés. Même moi, les virus et les mycoses, donc les mycoses aussi peuvent donner les méningites.
Qu'est-ce qu'on peut comprendre par infection bactérienne, virale et parasitaire?
Oui, bactérienne, ça veut dire que ce sont les bactéries qui sont à la base de l'infection. Et parasitaire, ça veut dire que c'est un parasite qui est concerné. Et puis virale, si c'est un virus. Et puis parfois aussi, on peut avoir des formes fongiques, c'est-à-dire causées par les mycoses.
Pour ce qui est de symptômes, il y en a généralement trois qui sont comme les principaux signes qui traduisent une méningite. Il y a la raideur de la nuque, une fièvre élevée, un état de confusion générale. Plus de précision avec le docteur Salah Aïs. Nous rappelons qu'il est médecin généraliste à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe.
On a beaucoup de cas ici. Nous sommes un hôpital de référence. Nous recevons les malades de tous les coins et nous avons beaucoup de cas de méningite ici à l'hôpital.
Est-ce que vous pouvez avoir une idée sur les symptômes de cette maladie? Quels sont les signes caractéristiques de la méningite?
Oui, ce sont des. Il y a la forte fièvre. Premier, il y a la forte fièvre qui baisse difficilement. À part ça, c'est les tout petits. Ce sont des malades qui sont très irrités, avec des fleurs et parfois qui refusent de s'alimenter, qui refusent de téter. De manger des tétés, ils refusent. Donc, avec des fortes fièvres, agitation, pleurs et puis refus de tétés. C'est tout chez les tout petits. Chez les grands enfants, des enfants qui sont un peu grands là, on peut avoir ce que nous appelons une raideur des nuques. Donc, vous avez du mal à bouger la tête pour fléchir les deux coups de l'enfant. Et puis la fièvre aussi. Parfois associée avec même des vomissements.
Et est-ce qu'on peut le confondre avec la fièvre du paludisme, la fièvre typhoïde?
Oui, ça peut se confondre parce que les paludismes sont des très fortes fièvres. Là, parfois, les paludismes, surtout dans sa forme grave, peuvent aussi mimer la méningite. Mais il y a toujours, peut toujours faire une différence avec les laboratoires.
Et donc, en pareille circonstance, il ne faut pas hésiter à se faire consulter pour poser le diagnostic approprié.
Ok. Donc, moins de fièvres, surtout des fièvres qui baissent difficilement, avec des enfants agités, pleurnichants et parfois qui font des tétés, il faut consulter. Et les médecins, il faut aller à l'hôpital pour faire dépister la maladie de l'enfant.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, la méningite à méningocoque est associée à un taux de mortalité de 50% lorsqu'elle n'est pas traitée et à une fréquence élevée de séquelles sévères de 10%. En RDC, les enquêtes révèlent qu'en 2007, par exemple, le taux de mortalité dû à la méningite s'élève à 12% à Kinshasa et à 29% à Lubumbashi. Au clinique universitaire de Kinshasa, l'analyse de fiches de consultation révèle qu'en 2013, le nombre de patients souffrant de la méningite s'élevait à 5%, renchérit le docteur Bepuka Izizak, chercheur en maladies infectieuses.
Bon, les données statistiques récentes sont plus des données parcellaires. Il n'y a pas vraiment des données globales de la République. Mais en 2007, au niveau de la RDC, il y a eu 9565 cas enregistrés de méningite, avec 1963 décès. Donc, une létalité autour de 12%. Ça, c'est du point de vue général en RDC. Et une étude en 2010 réalisée par Mwamba à Lubumbashi a noté quand même une mortalité très élevée autour de 29%. Ça, c'est à Lubumbashi. Mais ici, à Kinshasa, aux cliniques universitaires, nous avons mené une étude en 2013 où nous avions eu une fréquence hospitalière de façon générale aux cliniques, c'était de 5%. Donc, sur tous les patients qui venaient aux cliniques, nous avons 5% des cas de méningite. On voit vraiment que c'est une pathologie à prendre vraiment au sérieux.
Thank you. Merci de nous rejoindre sur Radio Capi, la fréquence de la paix. Vous suivez en ce moment Maïcha Bora, votre magazine de santé et bien-être sur Radio Capi. Nous parlons aujourd'hui de la méningite, facteur de risque, prise en charge médicale et moyen de prévention. Il s'agit d'une maladie, comme nous l'avons dit, qui touche les méninges. Les méninges sont ces membranes qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière. Et lorsque ces membranes sont infectées par un microbe qui peut être soit un virus, ou une bactérie, vous pouvez alors souffrir d'une méningite. Cette méningite est dite virale ou bactérienne. Selon le microbe en cause, sachez que la méningite d'origine bactérienne est plus grave que celle causée par un virus. D'après les docteurs Bepuka Izizak, chercheur en maladies infectieuses, les bactéries responsables de la méningite ne sont pas les mêmes. Elles varient en fonction de l'âge. On retrouve différents types de bactéries selon qu'il s'agit d'un nouveau-né, d'un enfant plus âgé ou d'un adulte.
C'est comme j'ai dit là, donc vous avez d'abord la grande classification, c'est par rapport à l'étiologie, par rapport à la cause. Donc la cause, la plus fréquente, c'est la cause infectieuse. Dans la cause infectieuse, il y a quatre branches. Vous avez la bactérienne, la virale, la mycosique et parasitaire. Maintenant, la méningite qui arrive le plus souvent à l'hôpital, c'est la méningite bactérienne. La méningite bactérienne, vous avez trois bactéries qui sont les plus fréquemment rencontrées. Vous avez d'abord le pneumocoque, méningocoque et hémophilus influenzae. Méningocoque, pneumocoque, hémophilus influenzae. Donc, les types les plus souvent chez les jeunes enfants et l'adulte, ce sont les trois types là. Tandis que chez les nouveaux-nés, vous avez d'autres microbes, streptocoque, Escherichia coli, listeria, etc. Mais chez l'adulte, plus souvent, vous avez les trois germes bactériennes qui sont à l'origine de la méningite. Donc, pneumocoque, méningocoque et hémophilus influenzae. Si on peut les typer, donc c'est dans ce sens-là. Et chaque germe a ses facteurs de risque qui peuvent entraîner la survenue de ces germes.
Une idée sur des personnes à risque?
Bon, les personnes à risque, vous avez en général les sujets âgés. Donc les sujets âgés, quand on prend l'adulte, c'est souvent les sujets âgés.
À partir de quel âge généralement?
Supérieur à 55 ans, on est déjà à risque, vulnérable de faire la méningite. À part les sujets âgés, des situations d'immunodépression, par exemple l'infection à VIH peut favoriser la méningite. Vous avez l'alcoolisme chronique, donc la prise d'alcool. Vous avez des situations, par exemple des personnes qui ont été opérées de la rate, l'asplénie, ça peut favoriser la méningite. Il y a aussi certaines infections des voies respiratoires supérieures, hein, ça peut favoriser la méningite. Vous avez aussi des infections ORL, otite, etc. Ça peut être des facteurs de risque de la méningite de façon générale.
En ce qui concerne le diagnostic de la méningite, cela se fait par un examen clinique où l'on recherche les symptômes de la maladie. En cas de suspicion de la méningite, une hospitalisation sera nécessaire pour un bilan. Une ponction lombaire permet un meilleur diagnostic d'une infection des méninges, soutient le docteur Salah Aïs, médecin généraliste à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe. Dans la plupart des cas, le patient se présente souvent à l'hôpital au stade critique de la maladie.
Oui, d'abord, il faut mettre en évidence, confirmer que c'est une méningite. Là, on confirme avec la ponction lombaire, c'est-à-dire qu'à partir du dos, on requiert les liquides céphalo-rachidiens qui circulent, on requiert et on envoie au labo. Et si ça confirme que c'est une méningite, là, le traitement, c'est une antibiothérapie. Antibiothérapie adaptée, donc on fait l'examen, on fait ainsi, il y a possibilité au niveau des germes qui est responsable et on adapte les antibiotiques en fonction des germes éprouvés. Là, les traitements font aller au moins 10 à 15 jours à l'hôpital.
On peut guérir dans la méningite?
Oui, on peut guérir, on peut guérir si on se présente à l'hôpital à temps. Voilà. Si on se présente à l'hôpital à temps, on confirme les diagnostics, on commence les traitements, on peut guérir de la méningite. Mais parfois, et quand vous venez en état, il y a toujours des complications qui s'installent. Quand vous avez des enfants qui ne savent plus marcher, parce qu'il a fait des séquelles à cause de sa méningite, parfois ne parle plus, et parfois il reste comme ça, hébété, et comme un arrêt mental, à cause des séquelles que la méningite peut causer.
Mais les gens arrivent ici généralement dans quel état? Est-ce que les gens viennent à temps pour se faire soigner, consulter et se faire soigner ou ils arrivent à un stade critique dans la plupart des cas?
Malheureusement, les mâles chez nous, nos malades arrivent souvent à un état après avoir sillonné dans plusieurs petits centres de la place. Et quand il arrive, souvent c'est tard et avec déjà les complications qui s'installent. C'est comme ça que nous exhortons surtout les responsables des petits centres des petits centres environnants qui nous transfèrent les malades à temps. Parce que si nous transfèrent les malades à temps, et ces malades ont la chance de guérir de leur maladie. Contrairement si ils arrivent en retard avec des séquelles, des complications qui s'installent, c'est difficile de les faire sortir de cette maladie.
Et aussi l'automédication, parce que l'enfant fait une forte fièvre, hein, nous prenons, dans nos maisons, nous avons l'habitude de donner du paracétamol, et là, la maladie évolue et continue son évolution. C'est aussi une réalité, docteur.
Oui, c'est ce qu'il faut déconseiller. C'est bien de donner du paracétamol quand l'enfant fait la fièvre, vous donnez du paracétamol et après avoir donné votre médicament, directement, vous venez à l'hôpital, vous venez voir un médecin pour que les amis de l'enfant et qui mettent en évidence la pathologie qui est concernée et puis l'enfant puisse bénéficier des soins.
Sachez que l'on peut contracter une méningite à tout âge, cependant le risque est élevé chez les enfants de moins de 2 ans et chez des personnes dont le système immunitaire est affaibli. Cela concerne notamment les personnes de troisième âge, celles ayant des problèmes de santé chroniques tels que diabète et sida par exemple. Et aussi la prise en charge médicale se fait sur base de l'étiologie ou cause de la maladie. Suivant les explications du docteur Bepuka Izizak, nous rappelons qu'il est chercheur en maladies infectieuses.
Bon, la prise en charge médicale, comme nous l'avons dit, se base vraiment sur l'étiologie. Or, l'étiologie, la plus courante que nous rencontrons à l'hôpital, c'est l'étiologie bactérienne. Donc, ce sont des bactéries en général, qui est cité les trois bactéries. Alors, la clé du traitement, c'est l'antibiothérapie. Donc, il faut une bonne antibiothérapie à large spectre et à forte dose. Donc, une bonne antibiothérapie à large spectre à forte dose. Mais dans des situations où vous avez des méningites purulentes, ça arrive souvent en cas de pneumocoque et méningocoque. À part l'antibiothérapie, vous pouvez ajouter aussi les corticoïdes qu'on donne à courte durée. Mais en général, le traitement curatif, c'est l'antibiothérapie. Donc ça dépend des étiologies, mais l'étiologie bactérienne, c'est l'antibiothérapie. L'étiologie virale, des fois, la méningite, c'est celle de soi-même, ou... Dans certains types de virus, on peut arriver à donner les antiviraux pour soigner la méningite. L'étiologie mycosique, on donne les antimycosiques, l'amphotéricine B. L'étiologie parasitaire, selon le type de parasites, trypanosomiase, on donne les traitements appropriés. Toxoplasmose, on donne aussi les traitements appropriés. Donc ça dépend de l'étiologie. Mais fréquemment, nous avons l'étiologie bactérienne, c'est l'antibiothérapie.
Pour ce qui est de la prévention et des contrôles des épidémies de méningite, cela repose sur une détection précoce de la maladie et aussi sur la vaccination. Les résultats de recherche dans les domaines démontrent que fumer de la cigarette ou être exposé à la fumée constitue un facteur de risque. L'abus d'alcool, les infections orales, c'est-à-dire les infections qui touchent l'oreille, le nez et le larynx, et aussi les infections respiratoires peuvent également entraîner la méningite. La prévention de la méningite passe également par l'assainissement du milieu. La fatigue et le stress permanent affaiblissent le système immunitaire. Cela peut causer à la longue la méningite. Suivez les explications du docteur Bepuka Izizak, chercheur en maladies infectieuses.
Oui, en dehors de la vaccination, c'est au fait lutter contre les facteurs de risque. Hein, par exemple, vous avez des facteurs comme l'alcoolisme, il faut sensibiliser la population. Vous avez des facteurs comme les infections ORL, les infections respiratoires. Il faut commencer d'abord à bien prendre en charge ces infections, ne pas les négliger. Parce qu'à la longue, si c'est négligé, ça peut entraîner une méningite des proches en proches. Parce que vous voyez, la sphère ORL est vraiment liée au cerveau par la mastoïde. Donc, des proches en proches, on peut avoir la méningite. Donc, il faut lutter contre ces facteurs de risque-là.
Est-ce que c'est une maladie contagieuse?
La méningite, ça dépend. Si vous avez des germes tels que les méningocoques, ça peut, on peut avoir une transmission dans une même famille. On peut avoir une contamination dans une même famille. Donc, on parle même des épidémies à méningite à méningocoque. Mais ici, on l'a pas de façon permanente. C'est plus en Afrique de l'Ouest où on retrouve ces épidémies-là des méningites à méningocoque, où dans un même foyer, vous pouvez avoir 2-3 enfants qui souffrent de cette méningite à méningocoque. Et ici, en RDC, c'est de moins en moins retrouvé. Ce sont les mesures générales de prévention, l'hygiène, au niveau de la famille, mais la bonne prise en charge des pathologies qui peuvent faire, qui peuvent être des facteurs des risques de la méningite. Quand ces pathologies-là sont bien prises en charge, les otites, les conjonctivites, les infections respiratoires supérieures, ça peut, et puis, par exemple, les personnes qui sont à risque, autres, tels que les immunodéprimés, VIH, les diabétiques, la bonne prise en charge de ces patients-là favorise une diminution de la fréquence ou bien de la prévalence de la méningite. Et puis, de façon générale aussi, l'hygiène au niveau de la communauté.
C'est par ici que nous mettons un terme à ce numéro de Maïcha Bora consacré à la méningite, facteur de risque, prise en charge médicale et moyens de prévention. Merci à tous de nous avoir suivis. À la réalisation, Tati Mapoukou, à la prise des sons, Justin Siala, à la supervision, Tina Salama, au micro, Marcel Gombobala. À très bientôt dans un prochain numéro de Maïcha Bora. D'ici là, prenez soin de vous.